son d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Et d'abord, on va s'intéresser au prestigieux prix Nobel, prix décerné toute cette semaine dans une ambiance délétère. Prise dans la tourmente d'une affaire d'agression sexuelle, l'Académie suédoise a renoncé cette année à décerner le prix Nobel de littérature. Le fondateur de ces prestigieuses récompenses retournerait dans sa tombe, car l'inventeur suédois Alfred Nobel lègue sa fortune en 1895, qui va servir à la création d'une fondation, et tout cela pour se faire pardonner d'avoir inventé la dynamite. Son portrait signé Benoît Derry à Stockholm.
Né à Stockholm en 1833 dans une famille d'ingénieurs, le chimiste suédois Alfred Nobel doit sa fortune à l'invention en 1866 de la dynamite, un explosif révolutionnaire car facile à transporter et à manipuler. C'est suite à une série d'explosions dans l'usine familiale stockholmoise, dont l'une a coûté la vie à son frère cadet Émile en 1864, qu'Alfred Nobel décide de sécuriser l'usage de la nitroglycérine en la combinant à un solide inerte qui permet de déclencher l'explosion à l'aide d'un détonateur. En 1875, il s'installe à Sevran, près de Paris, pour continuer ses recherches sur les explosifs. C'est la publication erronée par un journal français en 1888 d'un avis de décès prématuré le qualifiant de marchand de mort qui le décidera à laisser une meilleure image de lui après sa disparition. Son testament de 1895 stipule ainsi que sa fortune sera placée dans un fonds qui servira à honorer ceux qui œuvreront pour le bénéfice de l'humanité. En 1900, 5 ans après sa mort, est créée la Fondation Nobel qui encore aujourd'hui encadre et réglemente l'attribution des 5 prix Nobel décernés en physique, chimie, médecine, littérature et paix. Le testament précise que la nationalité des scientifiques primés ne doit jouer aucun rôle dans l'attribution des prix. Il existe également un prix Nobel d'économie remis par la Banque centrale suédoise depuis 1969, mais qui n'est pas lié au comité Nobel. Les lauréats de chaque discipline se partagent un montant de 8 millions de couronnes suédoises, soit environ 900 000 euros, qui leur permet généralement de poursuivre leurs recherches à l'abri des pressions financières. La cérémonie a lieu chaque année le 10 décembre, jour anniversaire de la mort d'Alfred Nobel.
Depuis 30 ans maintenant, l'Azerbaïdjan et l'Arménie se disputent les territoires du Haut-Karabakh, des territoires qui ont été massivement minés pendant le conflit de 1988. Une association britannique singulière, Halo Trust, s'est créée pour déminer les villages et elle emploie 30 femmes, une manière pour ces femmes d'obtenir une indépendance financière et sociale. Reportage à Mengalanata et Rahmort, Constance Léon.
Nous sommes à 1 heure de voiture au sud de Stepanakert, principale ville du Haut-Karabakh. Une femme et 4 hommes déminent la pente d'une colline qui donne sur les montagnes de l'Azerbaïdjan. Leur travail permet aux habitants de retourner sur leurs terres et de les cultiver sur ce territoire pas plus grand qu'un département français. C'est le premier emploi qu'occupe Sirun Ohanian. À 37 ans, elle a passé les concours pour devenir démineuse il y a 1 an. Elle passe des journées de 12 heures recroquevillée dans la terre à la recherche de mines.
Je travaille avec mon détecteur de métaux. Il émet un signal quand il a repéré une mine. S'il n'y en a pas, je continue. S'il y en a un, je creuse. Si c'est une mine, nous arrêtons tout et c'est le chef d'équipe qui fait exploser l'engin, une fois la zone évacuée.
Sirun Ohanian fait partie des 30 femmes qui travaillent comme démineuses sur les 270 démineurs employés depuis 2015 par Halo Trust, une association britannique principalement financée par les États-Unis. Démineuse, c'est l'un des seuls emplois qui accorde un salaire un peu supérieur à la moyenne, accessible aux femmes. Surtout dans une région non reconnue par la communauté internationale et dépendante économiquement de l'Arménie, où le chômage était supérieur à 18% en 2017 selon la Banque mondiale. Le mari de Cyrano Agnan est parti, lui, travailler en Russie. Le travail pénible et dangereux de démineuse est donc nécessaire pour subvenir aux besoins de ses trois enfants.
Nous gagnons 400 dollars par mois, plus les primes qui me sont accordées grâce à ma formation paramédicale. C'est un salaire supérieur à la moyenne, mais ce n'est pas suffisant pour faire vivre ma famille. Vu la pénibilité du travail, ce salaire, c'est la moindre des choses.
Le lendemain, l'équipe de Halo Trust se rend sur un autre champ de mine, au nord de Stepanakert, à 20 km de la ligne de contact avec l'Azerbaïdjan. Nous retrouvons Varditer Saakian, qui dirige l'équipe des démineurs depuis 5 mois. Mère de deux enfants et divorcée, elle considère qu'elle est aussi la mère de ces quatre jeunes démineurs dont elle surveille le travail au quotidien dans cette forêt plantée sur une colline en pente.
Il y a eu un accident. Un tracteur a explosé sur un autre champ de mine. On arrête le travail.
De retour à son domicile à Stepanakert, Varditer Saakian retrouve sa fille de 10 ans en train de faire ses devoirs. Le Haut-Karabakh est l'un des territoires au monde où, proportionnellement à sa taille, les accidents sont les plus fréquents selon Halo Trust. C'est l'une des raisons pour lesquelles les habitants du Haut-Karabakh refusent que les femmes choisissent ce métier dangereux. Varditer Saakian y voit, elle, une opportunité pacifique d'être utile à sa région.
Mon entourage me disait, s'il t'arrive quelque chose, tu es la seule qui fait vivre ta famille. Que deviendront tes enfants? Ma famille s'y est plus ou moins habituée, mais en mars 2018, il y a eu un accident dans un champ. Trois des mineurs sont morts, deux autres ont été blessés. Et là, mes proches m'ont demandé de démissionner. J'ai refusé. Quand il y a eu la guerre de 4 jours, en avril 2016, face à l'Azerbaïdjan, si tous les soldats avaient quitté leur poste, qui nous aurait protégés? Être des mineuses, c'est comme être soldat. Nous sommes là pour protéger les gens.
Le recrutement des femmes démineuses permet de parer au manque de main-d'œuvre masculine et jeune partie servir à l'armée. Embaucher des femmes démineuses est aussi un moyen pour Halo Trust de faire accepter le travail des femmes comme équivalent à celui des hommes. D'ici un an, Halo Trust aimerait embaucher 10 femmes supplémentaires.
Il s'appelle les Loups de la Nuit. Ce club de bikers venu de Russie a débarqué en République tchèque en mai dernier pour la célébration de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nationalistes, homophobes, proches du Kremlin, ces Loups de la Nuit ont désormais une base près de Bratislava, en Slovaquie voisine, ce qui inquiète les autorités, d'autant que du matériel militaire y a été stocké. Alexis Rosenzweig.
Situé à quelques dizaines de kilomètres de la capitale slovaque, le petit village de Dolna Krupa est devenu célèbre du jour au lendemain à cause de ce nouveau camp d'entraînement où prédomine la couleur kaki, le style camouflage et où sont garés pour l'instant davantage de chars de combat que de deux roues. La nouvelle branche locale des Loups de la Nuit a récemment été fondée par un entrepreneur slovaque qui se veut très menaçant quand des journalistes tentent de s'aventurer près de sa propriété. Proche de l'ancien ministre de l'Intérieur, Josef Hambalek vient de se voir infliger 33 000 euros d'amende pour avoir omis de déclarer le matériel militaire désaffecté entreposé sur ce terrain entouré de murs et de barbelés. Lui dit vouloir faire du site un musée militaire, mais cela n'a pas convaincu plus de 200 personnalités slovaques qui ont initié une pétition contre cette installation. La présence d'une milice paramilitaire slovaque en plein essor a également été signalée sur les lieux. Le chef de l'État Andrei Kiska a lui-même fait part de son inquiétude, précisant que les Loups de la Nuit n'étaient pas un club de fans de motos inoffensifs. Le gouvernement slovaque affirme être sur ses gardes. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'influence des Loups de la Nuit est dangereuse, notamment parce qu'ils s'efforcent de réécrire l'histoire ou de faire de l'OTAN une organisation criminelle. Interdit dans la Pologne voisine, ces motards sont en effet des fervents partisans de Vladimir Poutine et ils se déclarent prêts à prendre les armes pour défendre leur grande Russie, comme certains l'ont déjà fait en Crimée et le font encore dans l'est de l'Ukraine, pays avec lequel la Slovaquie, membre de l'OTAN, partage une frontière.
Bonjour Evmino.
Bonjour Catherine.
Alors, cela fera bientôt 3 ans que le monde s'est engagé à sauver la planète, ou du moins à essayer de la sauver. C'était à Paris, et la signature de ces accords laissait penser que les dirigeants avaient enfin pris la mesure de l'urgence climatique.
On en est loin aujourd'hui. Alors avec vous, Ève, on va faire le point pour savoir où on en est, en sachant que la prochaine COP, la COP 24, ce sera en décembre en Pologne.
Ouais, et il y a toujours urgence, Catherine. Entre le 3 et le 14 décembre prochain, les 1400 représentants des États participants réunis dans l'ancienne ville minière de Katowice devront transformer une centaine de pages en un document acceptable par les quelques 200 pays qui ont ratifié l'accord de Paris depuis 2015.
Évidemment, on est en droit de se demander ce qu'il va advenir de cet accord international.
Car depuis la signature, on a déjà perdu beaucoup de temps. C'est en partie dû au président américain Donald Trump, élu en 2016, qui a signifié aux Nations Unies son intention de se retirer des accords de Paris. Et c'est maintenant chose faite. Depuis un an, ratifié par l'UE depuis, le texte peut dorénavant entrer en vigueur sous sa forme contraignante et donc obliger les États membres à faire des efforts. Plus que jamais, l'Europe se retrouve en première ligne concernant l'application des mesures élaborées à Paris, aux côtés des autres grandes puissances mondiales, mais sans le plus grand pollueur de la planète.
Très concrètement, Ève, est-ce que les États ont commencé à appliquer les objectifs fixés par le texte? Où en est-on?
Alors tout d'abord, ces objectifs, quels sont-ils? Deux axes principaux se dégagent. Maintenir le réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés, idéalement accélérer les efforts pour même passer sous la barre des 1,5 degré, et réduire sévèrement les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.
Et dans ce domaine, l'Europe a même récemment revu ses objectifs à la hausse.
Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est le président de la Commission européenne lui-même qui l'a annoncé dans son discours sur l'état de l'Union il y a 2 semaines. Relever l'objectif de 40 à 45%, a-t-il déclaré, concernant la diminution des gaz à effet de serre, donc est valable scientifiquement et politiquement nécessaire. Mais pour l'instant, Catherine, aucun engagement n'est pris car il requiert l'accord des 28 États membres.
Et oui, c'est toujours le problème. Alors entre-temps, les services de la Commission mettent au point une stratégie à long terme de lutte contre le réchauffement climatique d'ici 2050.
C'est un autre point clé de l'accord de Paris, obliger chaque État à se fixer des objectifs clairs sur les 30 prochaines années. Ce qui semble se dessiner selon des sources proches du dossier et cité par le site en ligne Euractiv, s'approche davantage d'une série de jalons posés que d'un texte juridique. L'idée serait de réduire toutes les émissions dans tous les secteurs, transport, énergie, mais aussi agriculture et bâtiment. Certains secteurs afficheront des objectifs à 45% donc, et d'autres pourront aller beaucoup plus loin. On parle même d'émissions nettes nulles et d'émissions presque nulles en Europe d'ici 2050.
Bon, alors vous pouvez préciser cette histoire de nettes nulles.
Oui. Alors on parle d'émissions nettes nulles dans un scénario où l'absorption de CO2 équilibre les émissions causées par l'homme. Cela nécessiterait entre autres de mettre en place des politiques de gestion intelligente des forêts, notamment de boisement, de reboisement, car ce sont bien les arbres qui absorbent le dioxyde de carbone et produisent de l'oxygène.
Mais il faut aussi mettre en place le développement de nouvelles technologies.
Comme le captage, le stockage de carbone, une technologie coûteuse qui nécessite de gros investissements, ou le développement de la géo-ingénierie, de nouvelles technologies aujourd'hui à l'étude, aux quatre coins du monde, pour éliminer par exemple, encore une fois, le dioxyde de carbone, injecter des aérosols stratosphériques, lancer un parasol spatial, ou encore ensemencer des nuages marins, dit comme ça c'est très joli. Bref, on est encore très loin de maîtriser ces outils du futur.
Et oui, et pourtant on sait aujourd'hui que la lutte contre le réchauffement climatique pourrait créer rapidement de la richesse et des emplois.
Un rapport d'experts internationaux dévoilé en septembre l'affirme, la transformation de notre modèle économique vers une économie peu émettrice de CO2 pourrait générer près de 65 millions d'emplois et 26 000 milliards de dollars d'ici 2030. Alors dit comme ça, il n'y a plus de raison pour les dirigeants de rester les bras croisés, sans compter les quelques 700 000 morts prématurées qu'un tel virage environnemental pourrait éviter.
Merci Ève. Alors Ève Minot, que l'on retrouve bien évidemment la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Un pastore montagnolo ha detto così a me, che qua su per l'uniolo come luce si sta bene. Se tu senti il vento di pini, pare no tanti olini, se tu vai spuntare il sole, o che luce che splendore.
C'est l'animal emblématique de l'île de Beauté. Des longs poils, une agilité remarquable. La chèvre corse existe depuis plus de 5000 ans sur l'île et elle fait véritablement partie du paysage. Mais depuis quelques années, les éleveurs se détournent de cette race au profit d'autres chèvres plus dociles et surtout plus productives. La chèvre corse pourrait peu à peu disparaître, d'autant que les aides européennes sont difficiles à obtenir. Reportage sur place, Katia Michel.
Quand Lucien Beltramelli rappelle ses chèvres, certaines n'en font qu'à leur tête, parties vagabonder dans les rochers. Elle a du caractère, la chèvre corse. Mais Lucien ne pourrait pas vivre sans elle, celle qu'il appelle ses filles. Un troupeau de 200 chèvres, élevées en toute liberté, Lucien pratique l'élevage extensif, une tradition en Corse.
dans le tempérament de la chèvre corse, c'est la notion essentielle, c'est la liberté. Et c'est comme ça, il faut qu'elle bouge, il faut qu'elle sorte, il faut qu'elle aille dans les rochers, il faut qu'elle se promène. Et voilà, il faut qu'elle nous embête des fois, et qu'elle nous fasse courir. Et des fois, le soir, quand on arrive aux périodes un peu chaudes, ben, il faut aller les chercher. C'est un peu la bagarre, mais voilà, c'est la chèvre corse. C'est un lien particulier entre l'homme et l'animal. Donc, même si la profession est compliquée des fois, pour rien au monde, je changerais de métier, quoi.
Caractérielle, peu productive, la chèvre corse est de plus en plus boudée par les éleveurs qui se tournent vers des races moins vagabondes et plus habituées aux clôtures, comme les chèvres alpines. Pour Lucien, il faut absolument préserver la race.
Quand on vous propose de gagner 100 euros par jour avec 200 chèvres corse et qu'on va vous dire que vous allez gagner la même chose avec 40 chèvres alpines, aujourd'hui, la facilité, c'est voilà, elle est là. Hein. Après, il y a aussi le lien culturel, il y a le lien étroit avec ce que nous sommes. Et tout le monde, qui est berger ou pas, tout le monde un jour dans sa famille a eu une chèvre corse. Tout le monde. Et c'est impensable qu'aujourd'hui elle disparaisse. C'est impensable. Ce serait une catastrophe parce que sur les zones qui ne sont pas accessibles à des moyens mécaniques, ça va être elles qui vont entretenir l'espace. D'ailleurs, on le voit, hein, les territoires se referment, le maquis, la végétation a pris le dessus. Parce qu'il y a eu un abandon de cette filière-là, et ça va de soi qu'il faut garder cette spécificité.
Mais pour Françoise Spinozzi de l'Audarc, l'Office du développement agricole et rural, mieux vaut encore des chèvres venues d'ailleurs plutôt que de devoir faire face à une pénurie de lait.
On peut comprendre également le projet d'un jeune agriculteur qui veut aller vers de la productivité, de la facilité dans la gestion de son troupeau et qui veut donc s'appuyer sur un cheptel de race endogène. On préfère encore quelqu'un qui produirait à partir de races endogènes que le problème qui se pose aujourd'hui à nous de devoir importer du lait parce qu'on n'en a pas suffisamment. Aujourd'hui, la filière lait, c'est 13 millions de litres par an transformés. Sur ces 13 millions de litres, on est obligé d'en importer 3 millions et demi de litres par an. Donc on a besoin de produire du lait chez nous, sauf à l'importer. Donc plus vous importez de lait de l'extérieur, plus vous aurez de risques de voir le prix à l'achat baisser et donc mettre en difficulté l'exploitant insulaire qui verrait le prix du litre de lait acheté diminuer.
Aujourd'hui, il reste environ 30 000 chèvres corses. C'est 3 fois moins qu'il y a 50 ans. Et pourtant, il n'y a pas de crise de vocation. L'élevage attire toujours les jeunes. Mais aujourd'hui, trouver des terrains pour pratiquer l'élevage caprin extensif est de plus en plus compliqué, comme l'explique Joseph Colombani, le président de la Chambre régionale d'agriculture de Corse.
Le problème de la Corse aujourd'hui, c'est que le cadastre est faux. Vous avez 70% des parcelles qui appartiennent à des gens qui, sur le cadastre, sont nés avant 1900. Donc, qui sont décédés. Donc ça veut dire que les parcelles n'appartiennent à personne officiellement. Ça veut dire que lorsque vous êtes agriculteur, que vous voulez demander un bail à quelqu'un, il n'est pas en mesure de vous le faire puisque lui-même n'est pas propriétaire. Si vous n'avez pas ce bail, vous avez compris, vous n'avez pas droit à des aides. Ça nous pose des problèmes aussi vis-à-vis de l'Europe. Aujourd'hui, les aides européennes sont difficilement accessibles pour nous parce que personne n'a de titre de propriété. Ça nous met dans une insécurité vis-à-vis des primes, avec le risque d'avoir à les rembourser. Et on est un petit peu des squatteurs du foncier corse. Aujourd'hui, on est sur cette parcelle. Demain, rien ne nous garantit qu'on puisse y rester.
Les éleveurs caprins sont également confrontés à l'appétit grandissant du secteur touristique qui convoite peu à peu les zones montagneuses. La chèvre corse, fière au sommet des rochers, pourrait bien ne devenir un jour plus qu'une image de carte postale.
À la réalisation, il y avait bien sûr Françoise Grelot. Vous pouvez retrouver Accent évidemment sur RFI.fr et puis aussi sur notre page Facebook.